Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Metinarditi. Ce soir, les livres, c'est autre chose.
Bonjour Metinarditi.
Bonjour Jérôme Clément.
Alors nous arrivons au terme de la semaine, à la dernière émission. Et je dois dire que je vous quitte à regret, cher Metinarditi. Car vous êtes un homme tout à fait passionnant, avec de multiples facettes et beaucoup de réflexion à la fois. Et j'espère que les auditeurs en seront vraiment convaincus. Pour ceux qui nous rejoignent ce soir, qui n'ont pas entendu les dernières émissions, je rappelle que vous êtes écrivain turc, né à Ankara, vivant à Genève, écrivant en français. Vous avez d'ailleurs la double nationalité, et que vous avez été homme d'affaires avant d'écrire vraiment à partir de 50 ans. Vous êtes mécène. Et pour cette dernière émission, je voudrais que l'on se parle de façon un peu plus ouverte, sans thème particulier, un peu sur les choses que j'ai remarquées sur vous-même, et qu'on aille peut-être un peu plus loin dans votre personnalité, si vous le permettez. Et tout d'abord, vous avez dit au début de l'émission, quand on parlait de vos origines géographiques diverses, que vous étiez un cosmopolite. Mais vous m'avez dit aussi un jour que vous n'étiez pas seulement un cosmopolite géographique, mais un cosmopolite intellectuel, culturel et spirituel.
C'est
voilà
vrai.
Qui ouvre de vastes horizons. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cosmopolite qui a toutes ses facettes?
Un cosmopolite géographique, c'est
oui.
Quelqu'un qui est né quelque part. Ça. Ou alors il faut naître dans un avion ou juste sur une frontière, ça c'est difficile. Mais en principe, on naît quelque part. Et puis ensuite, on vit dans un certain nombre d'endroits pendant suffisamment longtemps pour en être imprégné. Et c'est vrai que j'ai vécu en Turquie, en Grèce, en Italie, en France, en Suisse et aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que je suis cosmopolite, et d'autant qu'en Turquie, lorsque j'étais enfant, à la maison, nous parlions 5 langues. Ensuite, on m'a mis à 7 ans dans un internat où il y avait des enfants d'une trentaine de pays. Voilà, je pense que ce côté cosmopolite m'a toujours accompagné, en tout cas sur le plan géographique. Sur un plan plus professionnel ou intellectuel, c'est vrai aussi que j'ai fait des études de physique. J'étais physicien, j'étais chercheur, j'ai enseigné à l'École polytechnique de Lausanne, par exemple. J'ai enseigné en tant qu'étudiant et puis ensuite en tant que assistant diplômé, j'ai enseigné la physique. Plus tard, en tant que chargé de cours, douzaine d'années plus tard, et pendant 6 ou 7 ans, j'ai enseigné l'économie. C'était à temps partiel, j'y allais une fois par semaine, mais enfin, c'était quand même un enseignement tout à fait régulier, c'était pas juste une conférence. L'économie et la gestion d'entreprise. Et des années plus tard, comme professeur invité, toujours à la même école polytechnique, j'ai enseigné les lettres et l'écriture romanesque. Voilà, c'est une façon d'être cosmopolite aussi, sur le plan du travail et des idées. Et puis, peut-être aussi que ce cosmopolitisme s'étend à ce qu'il est convenu d'appeler la spiritualité. Parce que je suis né juif dans un pays musulman. Ma première éducation était catholique. Ensuite, on m'a mis en Suisse dans un internat qui était un internat protestant. Mon professeur de prédilection était un Américain orientaliste, et j'ai lu les orientalistes à un âge très jeune où je n'y comprenais strictement rien, mais ça me faisait très plaisir de découvrir René Guénon et Fritz Schwann. Et puis, j'ai épousé une femme qui est grecque orthodoxe. Bon, c'est pas mal, déjà.
Oui.
Voilà.
Alors, c'est effectivement, c'est assez varié. Ça vous donne une approche assez complète du monde d'aujourd'hui, et méditerranéen en particulier. Mais si on reste sur un aspect très important, c'est-à-dire votre origine juive et le catholicisme, parce que dont vous parlez, c'est aussi très intéressant de voir que vous le dites d'ailleurs dans la chambre de Vincent, vous récitez le Notre Père
Oui.
avec Madame Ika,
Oui.
qui était votre
Ma
gouvernante,
gouvernante. Oui.
et votre père trouve ça très bien alors qu'il est juif
Oui.
lui-même.
Oui.
Et donc il y a
cette
volonté
libération.
de votre père, aussi de vos parents, de vous permettre des incursions dans la...
Voilà.
Mais vous êtes, me semble-t-il, j'aborde des sujets délicats et très personnels, mais vous êtes attaché à la pratique juive. Quand votre père meurt, vous êtes très attentif au rite.
Oui, je suis très respectueux.
Très respectueux
du rite. Je ne pratique pas la religion.
Vous avez fait la bar mitzvah, vous êtes quand même...
À 13 ans, on me dit, tu fais la bar mitzvah, je fais la
oui.
bar mitzvah. Mais je n'ai pas pratiqué la religion après la bar mitzvah. Et je ne me suis pas marié religieusement, je ne pratique aucune religion, et c'est peut-être la raison pour laquelle je me sens tellement à l'aise dans beaucoup de religions.
Vous vous sentez laïque, vous croyez en Dieu, vous êtes... Quelle est votre attitude par rapport à ça?
D'abord, la laïcité n'a rien à voir avec la croyance. Mais alors, vraiment, strictement rien. La laïcité, la loi dite de 1905, dont tout le monde parle, c'est une loi de séparation.
De l'Église et de l'État.
De la République et de l'Église. Voilà, absolument. Donc, je suis laïque en ceci que, effectivement, je crois juste de séparer...
Comme Atatürk avait voulu le faire en Turquie.
Absolument, absolument. Maintenant, vous savez, la croyance en Dieu, en une force supérieure, c'est évidemment des questions très, très générales que tout le monde se pose. D'où venons-nous? Il y a bien des explications. Et puis, il peut y avoir des explications scientifiques. Le Big Bang, par exemple. Mais ces explications elles-mêmes nécessiteraient une autre explication. Pourquoi le Big Bang? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre.
Oui, non. Ma question, elle n'est pas...
Mais je ne suis
là,
pas...
Votre attachement au rite, par exemple, juif et au judaïsme...
Oui, je suis très attaché...
C'est important.
Oui, le rite, c'était pour mon père. Ça, je lui devais cela. Et du reste, je me souviens que lorsque je récitais, pendant toute la semaine qui a suivi l'enterrement de mon père et les jours qui ont précédé entre sa mort et son enterrement, je récitais la prière pour les morts, le Kaddish, et je me souviens que ma mère n'en revenait pas que je le fasse. Et moi, je n'en revenais pas qu'elle n'en revienne pas.
Oui.
Je trouvais cela parfaitement juste et naturel. Je le devais à mon père.
Oui.
Mais je ne pratique pas la religion. Et peut-être est-ce grâce, si j'ose dire, à cette absence de pratique, que je me sens si à l'aise dans différentes religions, et en particulier bien sûr la religion juive, mais aussi la religion musulmane, et aussi la religion chrétienne, en particulier la foi catholique. J'écris chaque semaine dans la
dans
croix.
Dans la croix, oui. Vous pensez que c'est un paradoxe. Mais...
Et oui, parce, si vous voulez, je lis la religion à ma façon. Je lisais récemment des textes de François Cheng, le poète chinois, et puis également des interviews qu'il avait données. Il disait dans l'un d'eux qu'il n'est pas croyant au sens classique du point de vue chrétien, mais il adhère à l'image du Christ. Donc ça, c'est quelque chose, je peux m'associer à cette démarche, j'y adhère. Et puis il y a d'autres choses qui me sont très importantes. J'ai d'ailleurs, je crois, à plusieurs reprises écrit sur ce sujet dans la croix, c'est la question de la résurrection. Qui est un point clé, c'était le point nodal pour Spinoza, n'est-ce pas? À partir de là, il n'était plus chrétien, il ne pouvait pas accepter ce point précis de la révélation. J'ai remarqué en lisant, j'ai étudié les textes en particulier les évangiles et puis aussi les actes, les lettres. De tous les épisodes qui sont repris dans plus d'un évangile, sur les quatre, l'épisode où il y a le plus grand nombre de variances entre les quatre évangélistes, c'est celui de la résurrection. Tantôt on le voit ici, le Christ, tantôt on le voit là, ce ne sont pas les mêmes témoins. Et moi, je suis arrivé à la conclusion que si les pères qui étaient si sages et si intelligents et qui ont écrit ces textes, les ont écrits de cette manière, c'est qu'il y avait à cela une raison. Ces variances ont un motif, et le motif, c'est qu'elles ne sont pas importantes. Le motif, c'est que chaque jour, l'être recommence. Chaque jour, la vie recommence. Et ça, c'est quelque chose, voilà, c'est une interprétation qui me permet de me sentir parfaitement chez moi dans la foi catholique.
Oui, mais alors là, si vous me permettez, vous êtes dans la raison, dans l'analyse intellectuelle, avec une démonstration, mais...
Dans la lecture.
Dans la lecture, oui. Oui, mais il reste que, quand on lit, là aussi on revient à votre père, quand vous dites à plusieurs reprises, quelque chose qui vous a toujours frappé, marqué comme un souvenir, me semble-t-il, la sensation de sa main sur ma tête quand il me caressait les cheveux, vous dites ça dans l'imprévisible, et dans un autre livre, La chambre de Vincent, vous dites très explicitement... Le propos de sa main sur ma tête était de remplacer la calotte traditionnelle dont la religion juive a enjoint de se couvrir lorsque l'on prie. C'était là son geste le plus intime.
Oui.
C'est pas du tout une contradiction, c'est simplement pour dire que...
Sûrement pas.
Non, non.
C'est du reste.
C'est tout à fait clair.
C'est tout à fait clair.
Le cœur du réacteur, là.
Mais non. Ah. Mais non, voyons. C'est tout à fait clair dans ce que je dis. Je dis, c'était là son geste le plus intime.
Oui.
Et si vous lisez tout ce que j'ai écrit sur mon père dans différents livres, vous verrez bien que ce qui me manquait le plus, c'était son intimité. Et donc là, la religion est une sorte d'alibi. Ça passe pas. Donc ça n'a rien à voir avec la foi.
Non,
rien.
Ça n'a rien à voir avec la foi. J'ai pas dit que ça a à voir quelque chose.
Ça a à voir avec le besoin d'amour de mon père.
Oui.
Alors il faisait ce geste. Il le faisait effectivement parce que la tradition juive veut que on porte une calotte quand on prie, mais qu'il le fasse pour ça ou pour autre chose, le souvenir en aurait été le même. Je dirais même que j'aurais préféré qu'il le fasse sans avoir cette contrainte, liturgique à satisfaire.
Il y a un autre thème qui revient beaucoup dans ce que vous écrivez, c'est l'idée du destin. L'idée du destin, on la trouve dans des romans, dans les vies de Louganis par exemple, le destin qui fait et refait les choses à sa manière. Les hommes cachent, le destin dévoile, on retrouve encore cette idée du caché. Le destin n'aime pas que l'on se mette au-dessus des dieux. Voilà, cette idée que finalement, le fatum.
Voilà. Exactement.
Le fatum.
Amor fati, Nietzsche.
Voilà.
Absolument. Amor fati, l'amour.
Ça, c'est au cœur de votre pensée aussi, je crois.
Et ça, c'est très oriental.
Pourquoi?
Ah, je ne sais pas. C'est l'Orient. Vous savez, la manière dont les populations ont vécu en Orient au cours des siècles mérite qu'on s'y attarde quelques secondes. Par comparaison, par exemple, c'est difficile pour moi de faire une comparaison avec la France, parce que la France, c'est aussi beaucoup de populations très diverses, n'est-ce pas? Mais par exemple, en Suisse, il y avait une grande stabilité, les gens, ils savaient d'où ils étaient. En Orient, c'était des guerres tribales pendant des siècles, beaucoup d'exils, beaucoup de déplacements, beaucoup de fuites. Le fait de pouvoir s'appuyer sur le destin est une façon d'adoucir le malheur.
C'est très lié aussi à la religion musulmane, peut-être, pas seulement à l'Orient,
Je
c'est-à-dire
ne sais pas si c'est pas la religion musulmane
qui
qui
a
est liée
influé,
à l'histoire de ces populations.
oui.
Plutôt.
Non, mais je veux dire que quand on dit, enfin, je fais des résumés, des raccourcis un peu rapides, bien sûr, mais quand on dit Inch'Allah, ça veut dire, de
Si Dieu
toute
veut.
façon, si Dieu veut,
Si Dieu veut.
une
Bien
façon
sûr.
de croire au destin, quand c'est une expression,
Ou en Dieu.
ou
Ou en Dieu.
en
Parce que
Dieu,
là,
enfin, quelque chose qui nous dépasse et qui font que les choses
Oui,
arrivent.
mais ça, Inch'Allah, c'est quelque chose qui concerne le futur. Donc, en espagnol, on dit c'est Dios quiere. Si Dieu le veut, et voilà, donc c'est une expression que l'on retrouve dans beaucoup de pays. Mais Inch'Allah, ça veut dire rien d'autre que si Dieu le veut, en espérant que les choses se passent bien.
Le destin passe son temps à nous prendre de vitesse, c'est vous qui parlez. Il nous enlève ce que nous avons, et puis il le remplace par autre chose, comme s'il regrettait et qu'il voulait se rattraper.
Ah, ça arrive. C'est
Oui,
une interprétation.
ah bah ça
Une interprétation personnelle.
je vous cite,
Selon... Oui,
je vous
mais c'est
cite.
dans le roman même une
Oui, bien
interprétation
sûr,
des événements du roman, bien sûr, oui.
oui, mais. Comme cette idée du destin revient beaucoup dans beaucoup de romans, dans beaucoup de textes, dans beaucoup de livres, on voit
Je crois que c'est l'Orient.
qu'elle vous est proche,
Oui,
qu'elle vous est
parce
intime.
que je suis né avec ça et les premières années de ma vie, ensuite les contacts que j'avais, même s'ils n'étaient pas très fréquents, avec mes parents, avec la famille, cette idée de destin revenait régulièrement. Je crois que c'est une idée qui est consubstantielle aux peuples qui subissent des exils, qui subissent de grands coups du sort.
Alors oui, sans doute, dans les grands thèmes que vous évoquez, il y a évidemment l'amour, qui est l'amour filial, pas seulement l'amour conjugal ou l'amour charnel. Voilà, il y a vraiment toutes les gammes. Vous en parlez d'ailleurs plus comme des situations vécues que comme des situations réfléchies. Il y a peu de phrases, j'ai trouvé peu de descriptions, au contraire de ce qu'on trouve chez Stendhal ou chez d'autres auteurs de l'amour, sauf une petite phrase, mais il y en a sans doute d'autres, j'ai pas été un lecteur totalement attentif, peut-être, les reflets d'amour qui se cachent sous les plis des péchés. Ça m'a intrigué, cette phrase.
Je pourrais même pas vous dire d'où elle sort.
Moi, je pourrais vous le dire, je l'ai noté, mais en tout cas, voilà, enfin, c'est permanent, parce qu'au fond, il y a que ça qui compte,
Oui,
malgré tout. Il y a que ça qui
ben
compte.
absolument.
Et la recherche de l'amour de votre père, les liens que vous avez tissés avec vos enfants, l'amour de votre femme, l'amour de la vie,
Absolument.
c'est le fond des choses. Et en contrepoint, si je puis dire, il y a, enfin, en contrepoint, en tout cas, il y a la question de la solitude. Alors, la solitude, bon, c'est très important chez vous, on l'a vu depuis le début de la semaine.
Bah
L'internat, c'est presque un
votre
internat. Bon,
lapsus n'est pas totalement innocent.
non, il n'est pas totalement innocent. Mais l'internat à 7 ans, et les 11 années que vous avez passées, créent une personnalité qui doit affronter la solitude très jeune. Et c'est pas par hasard que vous attachez à Van Gogh qui vivait dans la solitude. Et voilà, ça vous habite toujours, c'est toujours quelque chose de. Vous en avez besoin, vous avez à la fois besoin de relations et de solitude.
Oui, je crois que le besoin de
Comment?
solitude est absolument dans les gènes. Hein.
Oui.
Voilà, c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas à revenir
Il n'y a pas à revenir dessus.
derrière. Ouais, c'est comme ça. C'est vrai aussi que j'apprécie beaucoup la compagnie, mais il faut qu'elle soit authentique. Et il faut pas qu'elle soit trop extériorisé, il faut que ça reste quelque chose d'intime.
Vous avez besoin de l'intimité dans la relation
Voilà,
et
c'est
quelque chose
vraiment ça.
de pas public. Vous êtes d'ailleurs très pudique et très discret, me semble-t-il.
Je crois.
Vous
Voilà,
parlez peu de.
ça peut pas être autre chose que intime et discret et pudique, mais surtout authentique et profond. Voilà. Sans ça. On retombe dans sa coquille.
Mais comme souvent, quand on a éprouvé ce sentiment, enfin cette forme de vie, de solitude, vous la compensez par l'écriture, parce que dans l'écriture, là, vous vous livrez.
Absolument.
Et vous vous livrez, alors en vous cachant, donc on retrouve l'idée du cachet, en vous déguisant sous d'autres personnages, mais qui vous permet quand même de dire des choses très intimes.
Il y a cette façon de se livrer, mais surtout, je crois, plus important encore, il y a le rapport au lecteur ou à la lectrice. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort. Ça, c'est quelque chose de vraiment irremplaçable, de se dire qu'il y a un grand nombre de personnes. D'abord, j'ose le dire, j'ai un lectorat qui est très fidèle. Je le vois au moment des signatures, dans les salons. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont lu quasiment tout. Et qui me connaissent. Et j'ai le sentiment, des fois, qu'ils me connaissent beaucoup mieux que je ne me connais moi-même. Donc là, il y a énorme. C'est quelque chose de
Mais
très enivrant, presque, ce rapport, très puissant.
est-ce que c'est votre façon de lutter contre la solitude ou en tout
C'est
cas
exactement.
de compenser cette...
Voilà, je me dis, OK, je ne fais pas les dîners en ville, je fuis les mondanités, je refuse tout, mais j'ai ma famille, quelques amis, énormément de lecteurs.
Oui, mais quand vous êtes seul avec votre feuille de papier,
Oui,
vous êtes dans la solitude.
jamais parce que j'ai mes personnages.
Vous avez vos personnages. Oui,
Jamais. Ça, c'est
oui.
quelque chose que j'ai remarqué lorsque je n'écrivais pas et que, par exemple, je me retrouvais seul un week-end à la maison, j'éprouvais une grande solitude. Depuis que j'écris, et en particulier depuis que je me suis mis à l'écriture romanesque, cela n'arrive jamais, parce que j'ai mes personnages. Ils me tiennent compagnie, je m'occupe d'eux, bien sûr, j'écris. Mais ce n'est pas une écriture stérile, c'est une écriture qui est irriguée de sentiments, d'émotions, de surprises, de joie, de douleur. C'est la vie de mes personnages, je la partage. Il n'y a aucune solitude.
En fait, est-ce que c'est pas un univers que vous vous êtes constitué effectivement très jeune, quand vous disiez que vous faisiez du théâtre à l'internat et que vous étiez seul et que vous aviez un monde imaginaire forcément qui vous accompagnait en dehors de vos camarades d'internat et cet univers-là, il vous a accompagné toute votre vie. La première partie de votre vie, il a fallu montrer que vous pouviez réussir socialement, réussir en affaires, vous affirmer comme chef d'entreprise, et puis ensuite vous êtes revenu à ce qui vous tient vraiment à cœur, quoi. C'est peut-être cette lutte, ou en tout cas cette faire avec la solitude, et retrouver un monde imaginaire que vous racontez aux autres. Est-ce que je me trompe en
Non,
disant tout
c'est
ça?
les arts, c'est bien sûr, ça passe par l'écriture de manière prépondérante dans mon cas, mais je ressens le même type d'émotion lorsque j'écoute de la musique, ce que je fais tous les jours, ou lorsque je suis dans un musée et que je suis devant un tableau.
Oui, c'est pour ça que vous
Voilà.
dites que Rubens et Rembrandt ne vous trahissent pas,
Voilà,
jamais.
jamais, jamais.
Ce qui n'est pas forcément le cas des hommes.
On peut compter sur eux.
Oui, pas sur les autres.
Sur eux.
Sur eux,
Oui,
oui.
sur les grands artistes.
Sur les grands artistes.
Ils
Ceux-là, ils vous
sont,
tiennent compagnie.
ils nous tiennent compagnie à nous tous.
Oui,
Ils
ils font
sont
partie
là,
de votre
voilà,
univers.
absolument. Ils sont là,
Oui.
ils ont payé cher ce droit d'être grands artistes.
Mais je vous
Voilà.
comprends, je comprends bien ce que vous voulez dire. Et je vois bien aussi comment l'écriture a permis de, et les artistes, enfin l'ensemble des artistes ont permis de faire face à ce que vous avez vécu finalement quand vous étiez enfant
Quand j'étais enfant.
et avec la difficulté que vous avez eue de l'absence de votre père. D'ailleurs, dans le livre dont on parlait tout à l'heure, qui est un très beau livre, un de vos derniers, Mon père sur mes épaules, il y a une phrase qui m'a intrigué et qui va finalement nous permettre de conclure ou d'arriver vers la fin de notre émission. Vous dites, à peine étions-nous sortis du magasin, c'est un magasin où vous avez acheté des vêtements, je crois,
Oui.
où il avait dépensé comme ça, parce que ça lui arrivait d'être assez prodigue. Et vous dites, à peine étions-nous sortis du magasin, je t'avais dit, vous adressez à lui, nous avons dépensé beaucoup d'argent. Très gêné, j'avais ajouté, il y a encore les livres. On les achète ou pas? Te souviens-tu de ta réponse? Elle était magnifique. Les livres, c'est autre chose.
Absolument.
Et ça, je crois que ça résume tout chez vous. Les livres, c'est autre chose. Et cette phrase, vous la reprenez très souvent dans vos écrits.
C'est absolument inoubliable.
Vous vous souvenez de quand ça s'est passé,
bien sûr. Je me souviens comme si c'était hier.
Oui.
J'avais 12 ans et à cette époque-là, à l'internat où j'étais, c'était la mode du hockey sur glace. Alors le hockey sur glace nécessite des équipements très coûteux. J'étais très mauvais en hockey, je voulais absolument l'équipement. Je savais que je ne ferais jamais l'équipe de l'école. Donc je pouvais me passer d'équipement parfaitement, mais voilà, par bêtise, par crainte, par désir de faire comme les autres, je voulais l'équipement. Alors, mon père n'y comprenait pas grand-chose, il m'a amené dans ce magasin, au haut de la rue Saint-François, à Lausanne, et donc on a acheté cet équipement, on est sorti de là, et mon père, qui avait quitté l'école à 14 ans, mais qui avait toujours beaucoup lu, qui était un autodidacte, très attaché à la culture allemande, mais en général à la grande culture. Voilà, m'a fait cette réponse. Je lui ai dit, on a dépensé trop d'argent. C'était l'époque aussi où la livre turque, dans laquelle il gagnait sa vie, s'effondrait chaque jour. Il y avait une inflation galopante. Je savais que mes parents faisaient quand même un effort pour payer cet écolage qui était cher. Et j'étais embarrassé, et mon père m'a fait cette réponse. J'ai dit, on laisse tomber les livres, il m'a fait cette réponse. Les livres, c'est autre chose. Et c'est vrai que les livres, c'est autre chose. C'est au-dessus de tout.
C'est au-dessus de tout.
Oui.
Vos prochains livres, c'est donc un dictionnaire amoureux de l'esprit français.
Alors, c'est pas tout à fait le... Ça, c'est celui
c'est
qui viendra
après.
Après le prochain.
Mais vous avez écrit un nouveau roman pour cette rentrée littéraire,
oui,
chez Grasset.
Oui.
Carnaval Noir.
Carnaval Noir.
Et ça sera le prochain livre qu'on verra et qu'on lira avec beaucoup d'attention, avec autant de plaisir qu'on a eu à vous écouter, cher Metin Harditi.
Merci beaucoup.
Merci de cette belle semaine.
Merci à vous, Jean.
De cette rencontre de Jérôme Clément avec Metin Harditi. À voix nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.